BD culte, exploration de planches iconiques du 9e art, nous allons parler aujourd'hui de la saga de Torgal, de Van Hamme et de Rosinski. Alors, Torgal est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque nous avons un nouveau Torgal, une nouvelle série, Torgal Sabbat par Romain Recht, qui retravaille les paradoxes temporels de la série. Nous avons le tome 40 de Torgal qui est sorti avec des nouveaux auteurs, Yann et Fred Vigneault, en novembre 2022. Nous avons la fin de la jeunesse de Torgal et enfin des jeux coopératifs et des jeux de rôle qui ont été mis en financement participatif, et notamment un sur le cycle de Quoi. Nous allons donc évoquer ce cycle qui est central dans l'histoire de la saga Torgal en évoquant les planches 23 et 24 du tome 12 de La Cité du Dieu Perdu, mais qui renvoie au 7e album, qui est un album central, qui est L'Enfant des Étoiles, où on revient sur la jeunesse de Torgal que Robin Recht réutilise dans sa vision d'un Torgal vieux qui se retrouve plus jeune. Voilà, alors, nous dire que le tome 12 de La Cité du Dieu Perdu est paru en 87, qui fait partie du cycle de K, tome 9 à 13, qui s'étale de 85 à 88. Alors, l'histoire de Torgal, qui fait 40 albums, part au début d'une histoire test, La Magicienne Trahie, et elle est devenue une série suite au courrier des lecteurs du journal Tintin, où il était publié en 80. Il existe aussi un BDVD, une tentative de mettre ça en image, Torgal entre les faux dieux, qui est sorti en 2005. Et en tout, on a 54 albums, donc 40 albums autour de Torgal et 14 autour des mondes de Torgal. Alors, dire deux mots avant de se pencher sur les planches du dessinateur, Grzegorz Rosinski, qui est né en Pologne en 1941. Il a fait les Beaux-Arts à Varsovie dès l'âge de 14 ans. Il est devenu illustrateur de polar, de guerre et aussi de 33 tours. Il a adoré Vaillant quand il était jeune et il est devenu directeur artistique de la revue Relax, où il publiait des westerns et de l'histoire de la Pologne. Il a déménagé pas mal, il est parti de Belgique, en Belgique pour le moment du coup d'État en Pologne en 80, et depuis 89 il réside en Suisse. Il a été publié dans Tintin, dans notamment une série sur les hommes verts et les extraterrestres, au début, et dans Spirou, il a illustré le supplément du trombone. Et à noter qu'il a, comme Torgal, eu une compagne, Kasia, qui l'a quitté il y a quelque temps, mais qui gérait son œuvre et qui était vraiment une muse pour lui. Le scénariste, lui, Jan Van Hamme, est toujours parmi nous. Il est né en 1939. C'est un monsieur qui est ingénieur commercial, qui petit à petit s'est mis à la bande dessinée depuis 1976. Et il a rencontré Rosinski via un ami éditeur. Donc ils ont travaillé par téléphone et par voie postale, parce qu'effectivement, à l'époque, Rosinski résidait en Pologne. Alors, Jan Van Hamme est romancier. Il a écrit les Largo Winch, qui n'ont pas marché en roman, mais en série BD, oui. Il a été rédac-chef de Spirou en 1976. Et finalement, il a énormément travaillé sur la question de la fâche cachée du pouvoir. Et il a été aussi bizarrement gagman pour Franquin et Anastasio. Les séries de Van Hamme sont des séries cultes, qui à fort tirage, Largo Winch, 13, Les Maîtres de l'Orge et maintenant Blake et Mortimer. Il a fait aussi des œuvres assez spécifiques, Histoire sans héros, Époxy et SOS Bonheur. Et on peut lire ses mémoires publiées en 2015 chez Grand Angle. Alors, nous allons écouter la planche, mais avant, je vais vous recontextualiser les deux planches que nous allons écouter, puisque en fait, Torgal, au cours du tome 9, Les Archers, il quitte sa famille, il fait la connaissance de Tchall le Fougueux et de Pied d'Arbre, et de Chris de Valnor, une femme fatale sans foi ni loi. C'est elle qui va l'entraîner dans une quête au pays quoi, puisque elle a besoin de mercenaires pour trouver un trésor. Elle va kidnapper le fils de Torgal, Jolan, et ils vont se retrouver dans cette aventure au pays quoi. Et l'idée, c'est de retrouver une cité perdue en Amérique du Sud. Dans cette cité, il y a un trésor, il y a une civilisation cachée. Et dans l'album, Torgal et Chris réussissent à pénétrer dans la cité et ont de ce dieu qui est devenu un dieu cruel grâce à l'aide d'un commandant qui mène une rébellion. Et le vrai but de la mission apparaît non pas de voler le casque d'Ogotai, mais de tuer Ogotai. Alors Thorgal va découvrir que cet Ogotai est quelqu'un qui lui est très familier. J'en dirai pas plus. Nous allons écouter les planches où Thorgal vit une espèce de remémoration de son passé.
Xargos ! Il s'appelait Xargos ! J'en suis sûr. J'avais 12 ans, je crois. J'étais venu le trouver pour savoir de qui j'étais né. Il m'avait donné un coffret magique.
Regarde les étoiles, Thorgal ! Ce sont elles qui t'apprendront d'où tu viens.
Les étoiles ? C'est là que j'ai vu ce trident pour la première fois, parmi les étoiles.
Nous arriverons bientôt en vue de la Terre, mes amis, le berceau lointain de nos premières origines. Grâce à nos millénaires d'avance technologique et psychosensorielle, il nous suffira pour le reconquérir de nous faire passer pour des dieux.
Pour des dieux ? Le trident, les vaisseaux volants, serait-il possible qu'Ogotai soit... Oh !
Ce jour est un grand jour pour toi, étranger. Ton sang impur va couler pour la gloire immortelle d'Ogotai.
Ogotai, je dois le voir, c'est très important.
Rassure-toi, tu le verras, dans l'autre monde où il t'attend.
Je dois lui expliquer, lui et moi, nous sommes...
Assez ! Le nom du dieu n'a pas sa place dans la bouche d'un chien d'étranger. Tu ferais mieux de me remercier de ne pas t'avoir fait torturer. Allons, assez perdu de temps, les prêtres nous attendent.
Voilà, alors, commenter ces planches. Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, on est dans un flashback qui se réfère au tome 7 de Thorgal, avec effectivement le personnage de Xargos, qui est un vieux sage que le jeune Thorgal trouvait. Donc Thorgal se rappelle quelque chose qu'il avait oublié. Xargos était le chef d'une expédition atlante qui avait été lancée dans l'espace à la recherche de la terre d'origine du peuple atlante. Voilà. Xargos, il avait une fille mariée à effectivement Vart. Vart était persuadé que le peuple atlante devait profiter de sa supériorité et asservir les êtres humains restés sur Terre. Voilà. Dans cette planche, on voit le vaisseau spatial qui est en planche centrale, étalé sur trois strips. Ce vaisseau central donne le sens du symbole du trident. Hein. On voit bien que le trident qu'avait Thorgal, c'est un symbole de son appartenance à l'Atlantide. Les tons de cette planche sont très sombres, on passe de l'ombre à la lumière, du conscient à l'inconscient, et on a une révélation sur les origines de Thorgal. La deuxième planche est une planche à tonalité rouge, où Thorgal est prisonnier, on est un peu dans une ambiance infernale, puisque en fait on est dans une période où ils vont peut-être être sacrifiés, et à la fin nous avons une espèce de porte et un tunnel de lumière, la dernière case est une espèce de fondu au blanc, et la planche d'après est une planche muette, la planche 25, que nous ne commentons pas directement, mais qui met en scène une pyramide maya. Donc on a vraiment ce point central où Thorgal va avoir une anamnèse sur son passé, et bien entendu, Cliffhanger va-t-il être sacrifié. Donc le sens du découpage de Rosinski donne à ce passage à la fois un aspect très nostalgique et épique. Alors, rappelez qui est Thorgal, qui a failli s'appeler Ragnar, mais le nom était déjà pris. Thorgal est un guerrier viking qui, quelque part, cherche la paix. Il a été mis à l'épreuve par les dieux, adopté par un chef viking. Il n'est pas viking. Alors, son nom est Aergison, donc c'est Thor et Aegir, c'est le nom de deux dieux, hein, le dieu du feu et des éclairs. Il va évoluer, il va vieillir de 20 à 40 ans. Ses origines extraterrestres sont sous-entendu dans l'épisode 7, L'Enfant des Étoiles, et confirmé dans cet album 12, c'est bien un survivant des Atlantes. Ce qui est très original dans le personnage de Thorgal, c'est qu'en côtoyant Chris de Valnor, qui est un peu la Lilith alors que Arisha serait Ève, lui, il va se retrouver à perdre la mémoire et à devenir l'ombre de lui-même, c'est-à-dire un mercenaire sans foi nulla, qui s'appelle Shaigan Saint-Merci. Et donc, effectivement, dès l'album La Marque des Bannis, on a un nouvel arc narratif très étonnant où un héros devient un anti-héros. Alors, l'univers de Thorgal, c'est l'univers d'un clan viking, Gandalf le Fou. C'est une famille, Arisia, la fille de Gandalf, qui lui donne tout son amour et sa fidélité. C'est aussi le fait que Thorgal a des enfants assez extraordinaires, à savoir Jolan, qu'on va retrouver là dans le cycle de Quai que Thorgal veut délivrer. Jolan va se trouver aussi, en tant qu'héritier des Atlantes, à avoir des pouvoirs parapsychiques, et notamment la télépathie. Sa petite fille, Louve, elle, est dotée de liens pour communiquer avec les animaux, et Aniel, le fils qu'il aura avec Chris de Valnor, eh bien, lui serait la réincarnation d'un mage rouge puissant. Donc une famille à problème potentiellement. Les influences graphiques de Rosinski sont très larges. Il lisait le journal Vaillant, il a énormément apprécié la qualité du clair-obscur de Paul Gillon, notamment dans Fils de Chine. C'est un adepte de la forme pure de Witkiewicz. Il adore aussi le cinéma de Fellini. On voit des échos dans la faune de Brexarit. Et la mise en couleur de ses planches est faite par sa fille Zofia. Petit à petit, il va développer ses talents de peintre. Il est fan de Nicolas Arbeau, un Norvégien de la fin du 19e. Et la plupart des couvertures de Torgal seront faites en couleur directe. Et dès le sacrifice, même les planches de Torgal seront faites en couleur et en peinture directe. Ce qui donne effectivement une note assez étonnante à la fin de cette série. Alors, pour dire de quoi nous parle Torgal, et les références principales de la série, c'est la croisée de plusieurs genres. On peut dire que c'est de l'héroïque fantasy. Une influence de Victor de la Fuente et de Druillet est certes à noter, mais on a un mélange de magie et de SF constant. Vanham a bien utilisé toutes ses connaissances, à la fois l'épopée de la mythologie nordique, mais aussi des références à la science-fiction. Tout le côté Atlante est en partie inspiré par le roman Antinéa de Pierre Benoît qui parlait à l'époque de l'Atlantique. Alors, les thématiques fortes de cette histoire, c'est, je pense, la question de la famille. C'est comment faire famille dans un monde chaotique, avec, effectivement, on l'a vu, ses enfants avec des différents pouvoirs. Aussi, une fable sur le pouvoir humain, avec l'idée des démiurges et des tyrans. L'idée aussi du temps et des paradoxes temporels. Robin Reich a bien compris dans sa nouvelle version de Torgal Saga. Et aussi, de creuser des civilisations antiques, donc la civilisation viking, et dans le cycle de quoi, les Mayas. Et aussi, Torgal va voyager dans des univers parallèles avec un personnage assez énigmatique créé par Vanham, c'est la gardienne des clés. Voilà. La postérité de Torgal, elle est très importante puisque nous avons dès 2011 un projet qui s'appelle Les Mondes de Torgal avec un scénariste, Yves Sant. On a Chris de Valnor qui est dessiné par Guido de Vita, Louve et la jeunesse par Roman Surzenko. Rosinski illustre les couvertures et effectivement, il va y avoir un film de fin d'études sur le Maître des Montagnes, mais Torgal ne va jamais passer le cap du cinéma. Il existe un CD musical d'Universal qui va donner un complément à l'univers fantastique de la série. Un jeu vidéo, La Malédiction d'Odin, et un projet de fondation à Delémont dans le Jura suisse où réside Rosinski maintenant. Voilà, alors nous poser maintenant la question du sens de cette série et de savoir pourquoi elle a autant de succès. On peut dire que Torgal est une série manichéenne au sens premier du terme. À savoir que le manichéisme, c'est pas bêtement l'opposition du bien et du mal, c'est la complémentarité et l'idée que le bien est dans le mal et vice-versa. On a trahi le sens originel du manichéisme qui était une religion au début du siècle. Alors, Torgal n'est pas un personnage facilement classable. Ce n'est pas un mercenaire ni pas un justicier. On a bien vu qu'il a même une ombre dans la série. Les forces du mal sont assez complexes. Ce sont des figures de démiurges, des extraterrestres ou des puissances ou des souverains tyranniques. Et on peut dire qu'on a là une très belle fable sur l'origine et le devenir de l'homme. Avec des énigmes, le radeau, l'anneau et le talisman qui sont éclairés à partir de l'épisode 12. Et l'idée dans cet épisode central, 12, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, c'est que dans les planches que nous avons analysées, nous assistons au réveil de Torgal qui retrouve sa mémoire et qui comprend finalement, un peu comme Luke Skywalker dans Star Wars, que la personne qu'il combattait lui est finalement très proche. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est un appel à relire toute cette saga qui fait maintenant 40 tomes. Même le dernier tome convoque à nouveau la mémoire de l'Atlantide et même l'intelligence artificielle à la mode. Donc c'est original de voir comment ce thème a été développé et se dire que Torgal aujourd'hui est une saga mémorielle de référence, un appel à se souvenir de notre filiation transcendante.